Bah, vous avez pas loin de 10 ans d'existence. Et peut-être certains de nos lecteurs vous connaissent pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le groupe?
Oui, bah, avec plaisir. Comme tu viens de dire, on a à peu près 10 ans d'existence. C'est vraiment la date de création, ouais, qui est autour de 2005. Après, on a une activité qui pour nous a vraiment commencé en 2011 quand on a sorti notre premier album Soul of the Earth. Pour te résumer un petit peu Magoa, ben, en 2005 c'était une bande de potes de lycée qui avait envie de monter un groupe, tout ce qu'on a fait. Et en 2010, Steve rejoint un groupe et puis voilà, c'est parti, on enregistre des albums et puis on sort ça.
D'accord. Si je regarde, à moins que ça soit une coïncidence, mais j'y crois pas, ça veut dire peine ou tristesse en portugais.
Exactement.
C'est venu d'où? C'est un nom original, mais l'un de vous est d'origine portugaise ou?
Alors oui, il y a quelqu'un qui est portugais dans le groupe, c'est Dafton, et c'est pas pour ça, en plus, mais c'est lui du coup qui nous a dit que ça voulait dire ça à la création du groupe. En fait, Magoa, ça veut dire plein de trucs, ça veut dire donc du coup, comme tu l'as dit en portugais, c'est un magicien en basque. C'est une famille aussi, une vieille famille dans les années, je sais plus combien, 1400, quelque chose comme ça, qui était à moitié dénié, je sais pas quoi. Enfin bref, ça a été pas mal de tout. C'est assez glauque, assez métal en fait, si tu veux.
D'accord.
Et du coup, on a choisi ce nom. C'est le nom d'un démon aussi oriental ou un truc comme ça.
D'accord, bouge pas trop, je sais pas pourquoi ça, le son évolue pas mal.
Ouais.
Ou bouge pas.
je bouge pas.
Finalement, vous évoluez dans une veine metalcore.
Ouais.
Alors, finalement, essayez de vous décrire, vous vous sentez proche de quel groupe?
C'est difficile à décrire parce qu'on se sent pas metalcore non plus en fait.
Ah.
C'est peut-être ce qui ressemblerait le plus à ce qu'on fait, ouais. Après, on définit pas notre musique comme ça. Pour nous, c'est vraiment du metal. Mais pour répondre à tes questions, je pense qu'on est assez proche artistiquement, musicalement en tout cas, de Bring Me the Horizon et Architects. Si on parle de groupe moderne.
D'accord. Donc il y a le côté assez entre guillemets tordu et technique d'un architecte qui vous intéresse.
On adore ce groupe effectivement. Après c'est pas aussi technique. C'est plutôt dans l'efficacité des morceaux, dans le son en lui-même. On apprécie beaucoup le groupe, quoi. Surtout le dernier album.
D'accord. Donc avec la volonté vous aussi de, bah, un peu comme les deux groupes que tu as cités, de, je veux dire, dès la première seconde du CD, mettre une grosse claque à l'auditeur.
C'est une volonté effectivement, ouais.
Et en termes,
j'espère que ça a marché d'ailleurs.
Ouais, ça a plutôt décollé le papier peint, c'est pas mal, ouais. mais en termes de, finalement, c'est quoi votre processus? Comment on est une chanson au sein de Magoa?
Pour une période en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'on était en fait enfermé en studio tous les quatre pendant un mois et demi au LTP Studio à Margency. Et en fait, on fonctionne comme ça. On s'enferme jour et nuit dans un studio, on compose des trucs, on les enregistre, on essaie d'aboutir à un titre complet et parfois on le jette parce que c'est nul. Et parfois on le garde et ça devient un morceau d'un album. C'est vraiment comme ça, en fait, si tu veux, cet album, c'est vraiment le résumé de quatre personnalités, de nos quatre personnalités, on a chacun pris part au processus de création.
Mais vous fonctionnez en termes de jam, ou il y en a un qui est avec un riff et vous fonctionnez dessus, comment ça tourne?
C'est ça, ouais, on a un riff, quelqu'un amène un riff, une idée de base, on enregistre, on fait tourner les pieds en brode là-dessus, ouais. On essaie de développer ça, ensuite on fait les arrangements, on écrit des textes, enfin si, écrit des textes là-dessus, et on essaie de tester tout ça, et on voit si ça fonctionne en fait, si toutes les idées fonctionnent. Ensuite, si tu veux, on n'est pas le genre de groupe qui compose des trucs chacun dans notre coin, et qui ensuite arrivera en répète, en proposant un morceau, on le fait tourner, et puis 3 mois après on se rend compte que le morceau est nul, quoi. On aime bien que ce soit assez direct, d'avoir vraiment du recul et une vue d'ensemble tout de suite sur ce qu'on est en train d'écrire, en fait.
D'accord.
C'est pour ça qu'on fait le choix de s'enfermer en studio, d'écrire des trucs et de les enregistrer tout de suite et de voir si ça fonctionne, si ça nous plaît.
D'accord. Et vous êtes toujours, vous partez toujours de la musique pour ensuite voir les thèmes au niveau paroles, ou c'est déjà arrivé qu'un thème ou une parole soit le début et vous la musique sort après?
C'est déjà arrivé, ouais. Ouais, c'est déjà arrivé que le texte soit déjà là et que ça nous inspire un style de chanson, ouais.
C'est arrivé sur Impérial?
C'est arrivé sur Killas.
Killas, ouais. D'accord. Ok.
Ouais.
Si on fait un petit retour en arrière, si on prend toute la période Topsy Turvy Dom, est-ce qu'il y a un souvenir ou un élément particulier de cette période-là qui émerge tout de suite quand tu penses à cet album?
Los Angeles. quand on a enregistré cet album, c'est le premier truc qui me vient, forcément. Parce que c'est un peu une expérience assez marquante pour nous dans notre vie de groupe. C'était de produire quelque chose aux États-Unis, de le faire là-bas, tous ensemble. Je pense que c'est la première chose qui me vient.
Et a posteriori, tu dirais qu'il fallait le vivre, il fallait le faire, mais ça vaut le coup ou non?
Ah, ça valait le coup, ouais.
Mais pas hors de l'expérience. Hors l'expérience de dire, je suis à LA, je vis mon kiff rock, entre guillemets, à fond la caisse. Le plus, il est où? C'est juste le kiff, ou c'est parce qu'il y a la technique, parce qu'il y a les mecs, parce qu'il y a, je sais pas, l'environnement?
Parce qu'il y a la technique, parce qu'il y a l'approche de la musique là-bas qui est complètement différente de la nôtre, et parce qu'au final, on a énormément appris en fait en allant là-bas, et je pense qu'on n'aurait pas fait une période si on n'était pas parti aux États-Unis, à Los Angeles, pour faire cet album avec Charles Massabo, parce que au final, on a appris un tas de trucs, et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de faire cet album seul du début à la fin, en fait. De le mixer seul, de le masteriser seul, de l'écrire seul, de l'arranger seul, et parce qu'il y a eu tout ça avant, je pense que ouais, ça valait mille fois le coup.
Et avant, vous aviez pas travaillé seul parce que vous sentiez pas de vous lancer ou de vous jeter à l'eau, ou...
Je pense qu'il y avait peut-être un petit peu de ça, et puis même en fait, on était peut-être un peu plus jeunes dans l'approche, c'était un peu différent, et on bosse avec Charles depuis un moment déjà, on bosse avec Charles depuis 2011, depuis notre premier album. Du coup, on a fait avec lui Soul Eaters, Animal et Topsy Turvy Dom. Et si tu veux, c'était logique jusqu'à présent de travailler avec lui. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et il nous a beaucoup apporté, beaucoup appris. Et aujourd'hui, on avait vraiment envie de faire les choses nous-mêmes, par contre.
D'accord. Mais parce que là aussi, ce qui m'intéresse, c'est entre guillemets sa valeur ajoutée que vous avez pu réintroduire sur ce nouvel album. C'est que parce que quand on écoute certains autres musiciens que j'ai pu faire dans des interviews précédentes, ils t'expliquent maintenant, voilà, si t'enregistres ton truc de façon propre dans ton studio, toutes les pistes, au clic, au machin, et puis après t'envoies ça au mec, et puis ça se débrouille. Finalement, est-ce qu'il y a encore une valeur ajoutée de d'être sur, entre guillemets, dans la même pièce ou dans le même studio que le producteur, quoi? Enfin, ou l'ingénieur son?
Ah ouais. Ouais, bien sûr, je pense qu'il y a une réelle valeur ajoutée quand le prod apporte quelque chose à la composition ou à l'arrangement ou à la vision en fait de ta musique. Ouais, ça apporte bien sûr quelque chose, mais
il vous a secoué, tu veux dire, ou...
Pardon ?
Il vous a secoué, enfin il vous a un peu fait violence, ou...
Quand on enregistre avec lui, tu veux dire ?
Ouais, ouais.
Ouais, un petit peu, il y a eu un petit peu de ça, il y a eu des moments où il nous a fait prendre conscience qu'il fallait peut-être chercher ailleurs, il nous a ouvert l'esprit sur d'autres façons d'arranger un morceau, enfin, tu sais, quand au final, parce qu'on a commencé avec lui, on avait 18 ans, donc toi t'es là, tout ce que tu veux c'est faire du métal ou quoi, et puis voilà, tu te rends pas compte qu'il peut y avoir tout un processus logique à l'écriture, et que faire de la musique, en fait, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut bien jouer des guitares avant que ton album sonne.
Ouais, mais justement, avec Imperial, vous avez décidé de jouer solo. Le risque, c'est que, entre guillemets, il n'y ait personne d'extérieur qui vous dise, si ça c'est à chier, de vous dire que tel truc c'est nul, et... ou alors est-ce que vous êtes vous-même ultra critique sur, enfin, vous arrivez à être ultra critique, ou l'un de vous, en tout cas, arrive à prendre ultra critique sur ce que vous proposez?
On est ultra critique, et on l'a appris comme ça aussi, on l'a appris en bossant avec Charles, je pense également. On est tous les quatre ultra critiques sur ce qu'on fait et on accepte tous très bien la critique. On prend beaucoup de recul sur ce qu'on fait. C'est pour ça que ça peut fonctionner en fait. C'est pour ça que ça peut marcher de s'enfermer à quatre pendant un mois et demi dans un studio sans se taper dessus. C'est parce que on est ultra critique sur ce qu'on fait et on sait se dire les choses en fait. On sait se dire quand quelque chose va pas, quand une compo c'est peut-être pas la bonne direction, quand tout ça. En fait, si tu veux, on n'a plus besoin aujourd'hui de cette cinquième personne. On n'a plus besoin de cet apport extérieur pour dire comment faire les choses.
D'accord. Et finalement, naturellement, il y a pour certains aspects, il y a l'un de vous qui prend le lead un peu pour le groupe ou c'est vraiment collectif comme effort?
Pour la compo, c'est vraiment collectif comme effort. Après. On se répartit les tâches différemment. C'est Sid et moi qui l'avons mixé et ça, par contre, effectivement, c'était genre le mix, c'est nous. On a un petit peu arrangé les trucs et tout, donc toujours en consultant les autres.
Et tu peux arriver à dire, je sais pas, au batteur qu'il fait pas son truc comme il faut, au bassiste qu'il fait pas, c'est pas comme ça que vous voulez, ou au guitariste que son riff là, c'est pas génial.
Ouais, bien sûr.
D'accord. Tout à fait. Super. Et justement, donc sur une période, il y a 12 titres. Pour arriver à 12 titres, vous avez bossé et finalisé 12 titres et c'est les 12 qui apparaissent ou c'est, vous en faites beaucoup plus et après vous faites une sélection super serrée?
Je pense qu'on en a acheté, je ne vais pas dire une dizaine, mais on en a acheté pas mal. Ouais. On en a acheté quelques-uns. En fait, si tu veux, on part sur une idée, sur un riff, je sais pas, ça peut être Martin qui compose un truc, Dafton, Sid ou moi, enfin, bref, le premier qui en gros avait pensé à quelque chose, on l'enregistre et puis on essaie de compléter, d'aboutir à quelque chose et quand ça aboutit à rien, on le jette. Ou sinon, en réécoutant le lendemain matin, on se dit bon, c'est nul à chier ce truc-là. viens, on fait une session, on part sur un autre morceau parce que là, c'est nul.
Ok. Et sur une période, il y a des choses de l'époque Topsy ou non, il y a rien?
Non. Pour le coup, vraiment rien.
Ok. Alors, il y a un truc que j'ai. Vous faites tout vous-même. Jusqu'à vous autoproduire, c'est pas très clair, je trouve, la situation label ou. Enfin, j'ai l'air de voir Season of Mist distribue.
Ouais, c'est ça, Season of Mist, c'est distributeur pour la France, oui.
Et sinon vous avez livré un produit final à Season?
C'est ça.
D'accord.
Season intervient uniquement pour la distribution, en fait. Notre label, c'est nous, c'est 10-to-1 Records.
C'est vous, 10-to-1?
Ouais, en fait, on a notre studio ici qui s'appelle 10-to-1 Studio.
Ouais.
Et par extension, par logique, le label s'appelle 10-to-1 Records.
Pour Topsy, c'était encore Clonosphère ou...
Ou c'est pour Topsy, c'était toujours nous. C'est normal en fait que ce soit un petit peu flou dans le sens où notre label ça a toujours été Magoa. Aujourd'hui on le concrétise en lui donnant un nom, mais on a toujours tout sorti autre produit.
D'accord, vous avez toujours donné le produit final à qui voulait, qui distribuait quoi.
Exactement, ouais, c'est ça.
Vous avez fait ça par obligation, parce qu'au début un groupe n'est pas connu, ou parce que c'est une volonté d'indépendance claire depuis l'origine?
Au début, sur ce volet d'hier, en 2011, parce qu'on sortait nulle part, je pense que on n'a pas trop le choix, on a fait ça comme ça parce qu'on voulait sortir notre album. Et au fur et à mesure, en fait, c'est devenu une volonté. Et là, pour Imperial, c'est vraiment une volonté de faire comme ça, en fait. Si tu veux, on a eu des propositions, on a eu plein de discussions avec des labels, des trucs sérieux et tout, mais au final, on a fait le pas. On a pris le parti pris, de faire ça en indépendant jusqu'à la fin et même de le sortir nous-mêmes parce que on s'est tellement investi en fait dans cet album de la première guitare qu'on a écrite jusqu'au mastering qu'on a finalisé que on pouvait pas laisser, si tu veux, partir ça comme ça entre guillemets et se laisser dicter notre façon de faire par un label, c'était juste pas possible.
D'accord, ok. Et donc France Season of Mist, et donc vous licenciez votre album sur les différents territoires?
Sur différents, pardon.
Territoires, en Europe, vous cherchez un autre distributeur, après vous essayez de trouver des contrats de licence ou distribution pour les autres territoires hors France?
Ouais, pour le moment ils sont pas distribués à l'étranger, ce sera essentiellement numérique.
Ouais.
Mais par la suite, ça viendra.
D'accord, ok. Et là aussi, c'est un effort collectif ou c'est un de vous en particulier qui s'éclate dans le business
Par rapport à la distribution?
Toute la gestion, voilà, du pressage, machin, enfin bon...
C'est un effort collectif dans le sens où on est quatre à investir dans...
À financer,
ouais. On paye notre passage de même, effectivement. Encore une fois, effectivement, c'est un effort collectif.
D'accord. Vous avez toujours soigné beaucoup vos visuels, vos pochettes. Et en fait, si on regarde les pochettes des trois albums, c'est quand même très, très, très différentes entre la première qui est un peu lunaire, avec ce personnage en petite tenue, entre guillemets, Animal, où c'est vraiment déjà beaucoup plus direct, et le troisième qui est très chiadé, avec aussi un personnage un peu étrange, un peu énigmatique, qui d'ailleurs donne bien l'image impériale. Comment vous bossez en général sur ces visuels?
Alors sur les deux derniers visuels, Top Sector Vidum et Imperial, nous avons travaillé avec Vincent Fouquet, qui est Egg of Chaos, son studio s'appelle Egg of Chaos. Et en fait on a toujours une idée de base, en tout cas pour les deux dernières pochettes, on avait une idée de base et on cherchait quelqu'un qui pourrait réaliser ça avec un sens de l'esthétique assez intéressant. Et on est tombé sur Vincent, et il nous a fait la pochette de Top Sector Vidum, on a trouvé ça super, et on a refait appel à lui pour une période, toujours le même process en fait, on avait l'idée, on voulait que ce soit une nana qui se fasse couronner par des mains squelettiques, etc. Et après on lui a dit, faut que ça soit quand même dans ton délire et tout, donc propose-nous un truc.
Et donc d'autant plus, la première pochette c'est une vanne, ou c'est étrange non?
Ouais, la toute première, tu parles de sur le dire, ça.
Ouais, bien sûr, ouais.
Ah oui, ouais, c'est complètement une vanne à la base. Si tu veux, c'est un petit peu une volonté de pas faire comme tout le monde, tu vois. On sortait un album en 2011 de métal, on avait 18 ans, on s'est dit, plutôt que de faire un énième album noir dans des bacs à la Fnac que personne ne remarque, on s'est dit, c'est quoi cette photo, elle défonce, viens, on en fait un truc qui est complètement décalé et au moins les gens s'interrogeront des années après,
ça marche. C'est l'un de vous le personnage masqué?
Non, c'est un très bon ami à nous, un ami du groupe, mais à la base, si tu veux, cette photo était destinée à un projet photo, c'était pas du tout destiné à la pochette de cet album, à la pochette de Swallow the Earth en fait.
D'accord.
Et vu que l'album s'appelle Swallow the Earth, qu'il y a ça, il y a la Terre, il y a cette contre-vue sur Paris et tout, et ce personnage complètement genre, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais.
Un mec avec un masque de lapin en slip en plein milieu d'une butte, tu sais pas ce que c'est. On a trouvé que c'était cool. Du coup, on a dit, mec, ça te dérange pas que ta photo ça soit notre prochaine d'album, et puis il a accepté, c'était cool.
Ouais. Donc, vous avez sorti récemment un clip pour Resistance? Qu'est-ce que tu peux nous en dire là du tournage de ce clip-là, là on peut saluer le côté super pro et super image.
Merci, et merci pour Benjamin Capelletti qui a réalisé ce clip, qui a réalisé tous nos clips d'ailleurs.
C'était déjà lui sur Betraying Grace?
Ouais, c'est lui sur absolument tous nos clips.
D'accord.
En fait, même sur Animal qui est notre premier clip, What Are The Damn, Betraying Grace. The Knives, Enemy, à chaque fois c'était ce bon vieux Benjamin Capelletti.
et donc le tournage?
Alors le tournage, qu'est-ce que tu veux savoir sur le tournage?
Comment ça s'est passé en général, et surtout, c'est un exercice qui est sympa de votre côté, ou c'est refaire 250 fois les mêmes trucs et ça fatigue au bout d'un moment?
On se fatigue beaucoup, ouais, quand on tourne des clips, surtout avec Ben, parce qu'il aime bien nous fatiguer, qu'on s'arrache et qu'on puisse plus marcher pendant 3 jours après. Mais ça se passe toujours très bien, dans le sens où on travaille avec des gens avec qui on aime travailler, et si on bosse avec Ben depuis aussi longtemps, c'est parce que on aime sa vision de la chose et qu'il nous connaît bien, et la journée de tournage se passe toujours très bien en fait.
C'est une journée pour arriver à ce clip là?
Ouais, c'était une journée, ouais.
Ah, vous avez pas dû chômer, effectivement.
Ouais, on s'est fait mal. Hein. C'était une journée de tournage intense, mais bon, ça valait le coup.
Y a une référence à Game of Thrones ou pas du tout?
Alors non, mais on s'attendait à ce genre de remarques par contre en fait.
D'accord.
Il y a une référence indirecte parce que régicide.
Ouais, ça tue dans tous les sens, donc ça fait.
Ouais, voilà, on égorge un roi pour prendre sa couronne et se couronner avec sa place, donc forcément, le truc auquel, visuel auquel on pense directement, c'est Game of Thrones, mais non, c'est une image forte, mais qui n'a pas forcément été inspirée de ça. Non.
D'accord, d'accord.
J'aime bien cette série.
Ouais, bien sûr. Il y a à la fois donc des séquences où on voit justement entre guillemets le meurtre, et puis une séquence où on voit le groupe en action. Les deux ont été tournés dans la journée ou c'est deux événements différents?
Les deux ont été tournés dans la journée, ouais.
D'accord. C'est pas la journée pour le groupe en mouvement entre guillemets, puis après il fait son montage avec le scène qu'il a tourné avant ou après.
Non, ça a été la matinée pour le groupe et l'après-midi pour les acteurs et il y avait tout ça dans la boîte et puis après il a fait son montage, ouais.
D'accord. Il y a d'autres clips que vous allez faire là dans les tuyaux ou pas?
On a d'autres idées. Pour le moment, on n'a rien tourné mais on aimerait en faire d'autres. Pour le moment, je ne peux pas t'assurer qu'on les fera.
Point de vue du music business et par exemple le recul que vous avez sur Betraying Grace, dans le monde actuel du, entre guillemets, bon, il n'y a plus de l'équipe à télé, tout le monde s'en fout parce qu'il n'y a plus MTV, ou alors tout le monde, personne ne regarde, ça, mais bon, il y a YouTube bien sûr, ça reste encore un outil de promotion puissant, le clip pour un groupe?
Ah ouais, je pense que c'est indispensable. Je pense qu'aujourd'hui c'est devenu super indispensable parce que même s'il n'y a plus ce côté, comme tu disais, chaîne de télé musicale avec des clips toute la journée. Aujourd'hui, la musique, elle passe beaucoup par la vidéo, en fait. C'est enfin, pour nous, en fait, on estime que aujourd'hui, c'est compliqué d'attirer quelqu'un si t'as pas de contenu vidéo, en fait. Qu'on prend le temps de rien et que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait principalement, c'est scroller sur notre téléphone, notre fil d'actu Facebook. Si t'as pas de vidéo, ouais, ça craint.
D'accord, non, mais... Ça...
Je pense, hein, en tout cas, je pense. Alors, après, on a toujours voulu faire des clips pour illustrer notre musique. C'est pas forcément parce qu'il faut faire des clips, parce que sinon personne n'écoute ta musique qu'on les fait, parce qu'on aime les faire, parce que c'est une réelle dimension. En fait, si tu veux, si on a tourné Resistance, c'est parce que c'était une image qui représentait bien l'album et qui, du coup, rejoignait même l'artwork de cet album. Parce qu'à la fin, quand elle se couronne, ça fait vraiment... La pochette d'une période, c'est exactement quoi.
C'est ça, oui, oui. Ah oui, le lien est direct.
Ouais, le lien est direct. Si tu veux, on n'a jamais fait des clips pour faire des clips parce qu'il en faut. C'est juste qu'on avait à chaque fois une idée, c'est vraiment une extension directe de notre musique, quoi. C'est que on aime la mettre en vidéo, ouais.
D'accord. Juste une petite dernière question et ensuite j'ai quelques questions plus sur tes goûts pour mieux te connaître. Qui finalement à court et moyen terme là, quels sont vos projets et espoirs pour Magoa?
Court et moyen terme
concert,
on aimerait vraiment partir faire une grosse tournée, sortir de France pour faire plein de dates à l'étranger, faire plein de dates en France bien sûr, hein. Avant, mais ouais, ce qu'on aimerait vraiment faire, c'est ça, ouais.
Au niveau date, pour l'instant, sans intégrer forcément une grosse tournée, il y a des trucs dans les tuyaux ou...
On est en pour parler, ouais, sur plein de choses. Après, on n'a rien de concret aujourd'hui. Je préfère pas enfin, je peux rien t'annoncer d'officiel aujourd'hui.
D'accord, donc de toute façon, pour suivre, c'est le site et puis Facebook, quoi.
Ouais, bien sûr, ouais. On est assez actif, notamment sur notre Facebook. Ouais.
D'accord.
On mettra tout ça en ligne dès que ce sera officiel.
Ok. Juste deux trois questions pour mieux connaître tes goûts
ouais.
Musicaux. C'est toujours très difficile. Je m'impose moi-même l'exercice et c'est pas simple. Chanson préférée tous les temps.
Oula.
Ouais, je sais. Bah oui. Bon.
Chanson préférée de tous les temps. Every day is exactly the same, Nanny Schnells.
D'accord. Premier album rock acheté?
Metal Metallica, c'était l'Ode, je crois. C'était on peut appeler ça un album rock, mais c'est
ouais, d'accord. Le dernier album rock plutôt, mais ça peut ne pas être, qui t'a accroché l'oreille, qui t'a plu?
Architects.
L'Architect, ok. C'est bien. Ouais, t'es cohérent avec toi-même, tout va bien.
C'est vraiment, en fait, si tu veux, dans le rock, j'écoute beaucoup d'autres choses que du rock et du métal. J'écoute beaucoup, en ce moment, rap US ou même pop ou même des trucs comme ça, parce que vu qu'on fait de la musique tous les jours dans notre studio, on est bien obligé d'avoir d'autres influences aussi.
Ouais.
Et puis même, j'aime la musique au sens général, en fait, j'aime le métal, mais j'aime vraiment... la musique et découvrir plein de trucs constamment. Et dans le rock ou même plutôt le métal, c'est pour ça que je dis Architects, parce que c'est vraiment le dernier qui m'a vraiment scotché. Et sinon, plus rock, Frank Carter aussi. Frank Carter est super cool.
D'accord. La chanson de votre discographie que tu aimes le moins?
Solo Diaz.
D'accord.
Solo Diaz, je pense.
Il y a une raison particulière ou...
C'est le premier nom qui me vient comme ça, mais je pense que l'album Solo Dears, si j'avais une chanson à choisir que je préfère le moins, que j'aime le moins, ça serait dans cet album, ouais.
D'accord. Imagine, pour le prochain album, t'as le choix d'un invité, mort ou vivant, tu prends qui?
Un invité sur l'album?
Ouais.
Je pense que c'est compliqué de faire plus probant que Lemmy.
D'accord, c'est l'actualité.
Non, mais je sais que c'est une grosse source d'inspiration pour nous tous, et surtout pour Sid, qui est un fan incontesté de Motorhead. Donc je pense que s'il y avait quelqu'un à faire revenir, ce serait soit Lemmy, soit Dimebag. Je sais que je suis pas très original, mais bon, c'est ce qui me rendrait le plus dingue, je pense.
D'accord, et dernière question, t'as la possibilité de te produire avec Magoa partout dans le monde? Dans n'importe quelle salle, enfin bref, tu choisis, tu vas où?
Oh, c'est dur ça. Dans n'importe quelle salle du monde?
Ouais.
Je pense forcément à des grosses salles et tout, ouais. Mais c'est pas forcément le mieux en fait. C'est pas forcément le plus cool.
D'accord, tu préfères le petit club intimiste où c'est chaud, quoi, où il y a un public
Non, j'aime bien l'entre deux en fait. J'aime bien le côté où il y a quand même un rapport au public, mais tu peux quand même visuellement faire quelque chose d'intéressant et que tu vois, tu peux quand même développer tout ton show.
Ouais.
Franchement, notre but, ce qu'on aimerait par-dessus tout, c'est de faire des shows à la Rammstein. Tu vois, alors c'est pas possible pour le moment, mais Rammstein, c'est vraiment une influence et musicale. Et de performance en fait, si tu veux.
On est bien d'accord.
On aimerait vraiment faire ça à terme. Et sinon, ce qui me ferait kiffer énormément, c'est de jouer au Hellfest.
D'accord, donc spécial message à Ben Barbeau.
Oui, Ben, si tu nous écoutes, ça fait très longtemps qu'on aime ton festival et qu'on rêve d'y jouer.
Entre toi et moi, t'as un bon messager avec Roger, hein, mais bon.
On verra ça, c'est après,
c'est
pas de ça.
Ok, bon écoute, merci pour tout, et puis tous mes voeux pour Magoa.
Merci beaucoup, merci à toi.
À bientôt.
À la prochaine,
ciao. Salut.